Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à prendre vos Bibles afin de lire les textes de la prédication, qui seront au nombre de trois. Le premier dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, des versets 41 à 52. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Mais ses parents ne s'en aperçurent pas, pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit : « Enfant, pourquoi nous as fait-tu cela ? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ensuite, nous allons naviguer dans l'évangile de Matthieu, au premier chapitre, des versets 18 à 25. Évangile de Matthieu, au premier chapitre, des versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et le dernier texte, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, des versets 41 à 46. Évangile de Matthieu, des versets 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette question : Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ? Ils lui répondirent : De David. Et Jésus leur dit : Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions.
Si nous n'avions pas de papa, nous ne serions pas vivants. Nous n'existerions pas. C'est un peu comme si nous voulions lire la Bible et la comprendre sans le Saint-Esprit qui nous éclaire. Il n'y a pas de vie. Nous dirons donc son action et nous comptons sur lui aujourd'hui encore. Nous voici dans la période de Noël qui sûrement n'est pas le moment où Jésus est né. C'est sûrement pas cela, parce que les bergers à cette époque ne sont pas dehors, par exemple, et d'autres éléments. Mais c'est pas grave. On ne sait de toute façon pas le jour exact de sa naissance. Et c'est un moment particulier, une occasion de pouvoir parler de celui qui est le cadeau de Dieu. À Noël, on parle de cadeau, mais en fait, il y a un cadeau beaucoup plus grand. C'est le cadeau de Christ qui est venu sur terre, qui est la lumière du monde. On voit la lumière aussi autour de nous. Bien, réjouissons-nous de voir ces lumières qui nous redirige vers la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un se rappelle le sujet que j'avais regardé avec vous l'année passée à Noël ? Tu te souviens ? C'était quoi ? La maman de Jésus. Exactement. Oh, bonne mémoire. C'est cela. Et bien, cette année, j'ai pensé qu'il serait logique de parler du papa de Jésus. Puisque l'année passée, j'ai parlé de la maman, ben, cette année, on va parler du papa. On va parler de Jésus aussi, évidemment. Et donc, c'est le titre de la prédication. Vous avez sûrement déjà vu des crèches avec un petit bébé dans une mangeoire, avec un papa, une maman qui accueille les bergers et les mages. Mais qui est donc le papa de Jésus ? Bon, les enfants, vous connaissez la réponse. Qui est le papa de Jésus ? Oui, vous pensez à Joseph, d'accord, c'est bien. Vous connaissez tous les personnages qui sont autour de la crèche, c'est très bien. Mais écoutez, je vais vous dire des choses ce matin qui vont peut-être un tout petit peu vous bousculer. C'est pas mon but de trop vous bousculer, mais un petit peu, pour un peu mieux comprendre qui est Jésus. Je vais prendre du temps pour le premier point, ça sera un point un peu plus long, que j'ai intitulé « La présentation du papa de Jésus ». Ensuite, nous parlerons du rôle et du caractère de Joseph et nous terminerons sur l'attitude de Jésus face à son père. Voilà, vous avez le menu, comme ça, on y va. Hein, donc, on commence par la présentation du papa de Jésus. Mais bon, je dois vous dire que je ne vais pas commencer par vous présenter le papa de Jésus. Je dois vous parler d'autre chose d'abord. En fait, j'aimerais faire la distinction en différents types de papa. En réfléchissant, j'ai pensé à 4 types de paternité qui peuvent être approuvés par la parole de Dieu. Alors, je vous avertis déjà que ce que je vais vous partager est simplifié, même si parfois il y a des petites précisions. Mais l'idée, c'est d'avoir en fait les principes de base. On pourrait évidemment complexifier ce que je vais vous dire. Donc, si je ne le fais pas, c'est une question de temps et aussi de désir qu'on ait d'abord une base claire. Donc le premier type de papa que l'on connaît tous, c'est le papa biologique. Le papa biologique, c'est le cas pour tous les êtres humains et la plupart savent qui est leur géniteur. Mais il peut arriver que ce ne soit pas le cas. Suite à de la prostitution, de la fornication, de l'adultère, où la maman est allée avec plusieurs hommes et sans, ne sait pas qui est de qui elle est enceinte, ça arrive, c'est vrai. Une autre possibilité est cette notion de la conception médicalement assistée avec un donneur inconnu, qui en passant semble être difficilement défendable bibliquement, je referme la parenthèse. Mais le papa biologique existe pour tout le monde, car il est impossible d'avoir un enfant sans la partie d'un père, XY, hein, avec le sperme, et d'une mère, XX, avec l'ovule. Mais tout le monde ne connaît pas forcément son papa biologique. Certains l'ont peut-être même perdu, ou simplement il est mort. Vous avez compris les enfants ? Oh là là, c'était déjà un peu compliqué. Alors j'ai résumé, comme ça on va comprendre. Hein. Donc nous avons tous un papa qui s'est uni avec notre maman pour que nous puissions venir au monde. Hein ? Vous avez tous un papa qui s'est uni avec notre maman pour que nous puissions venir au monde. C'est notre papa biologique. Et en principe, c'est d'ailleurs notre papa légal.
Voilà, comme ça, plusieurs termes qui viennent là.
Ensuite, il y a le papa éducatif. C'est l'homme qui nous apprend à parler, à marcher, nous tenir tranquilles, qui nous apprend à obéir, qui nous encourage, qui nous soutient, qui nous guide, qui est responsable de nous dans notre développement, dans notre formation. Et généralement, le papa éducatif, ben, c'est le même papa que le papa biologique. Hein? Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si le papa biologique meurt, il ne peut plus être le papa éducatif. Il n'est plus là. Donc, si la maman se remarie, en principe, son mari devient le papa éducatif de ses enfants. Et il peut devenir le papa légal ou pas. Ça va ? Vous avez compris, les enfants ? Voilà, je résume de nouveau. La plupart d'entre nous ont un papa qui prend soin de nous, qui nous apprend à obéir, qui nous manifeste son amour. C'est notre papa éducatif. OK ? Donc, c'est... ce papa qui prend soin de nous, c'est notre papa éducatif. Et très souvent, c'est aussi notre papa biologique. C'est la même personne, c'est simplement papa, en fait. Hein, donc, pour un enfant, si vous êtes enfant, vous dites, ben, j'ai un papa, c'est mon papa. Donc, biologique et éducatif. Il a déjà deux types, là, qui sont en un. Il existe aussi le papa spirituel. C'est celui qui conduit à Christ, qui aide à grandir dans la foi. Comme Paul avec Timothée. Il le dit dans 1 Timothée 1, 2, par exemple, ou avec Tite, ou avec Onésime. On voit en fait qu'il les appelle ses fils spirituels. Donc il existe un papa spirituel, qui peut aussi parfois être appelé un mentor. Hein, c'est un autre terme qu'on peut utiliser. Cela peut aussi être le papa biologique et le papa éducatif. Trois en un, c'est aussi possible. Et il existe un quatrième type, c'est le papa céleste. C'est le Dieu qui adopte des personnes qui deviennent ainsi ses enfants. Le papa céleste est le Dieu qui adopte des enfants qui deviennent ainsi ses enfants. En fait, le papa céleste n'est jamais le papa biologique. Bien qu'il intervienne dans la conception, hein, Dieu intervient, on en a parlé dernièrement quand on a parlé de PMA. Il peut parfois aussi pallier au papa éducatif ou au papa spirituel. Mais généralement, il délègue cette tâche à des hommes. Ben, vous saviez peut-être pas qu'il y avait autant de types de papas. Bien souvent, nous n'en rendons pas compte, en fait. On ne s'en rend pas compte. Parce que le papa biologique est aussi le papa éducatif. Il n'y a qu'un seul qu'on appelle papa, point. Voilà, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Celui qui est papa spirituel, d'ailleurs, n'est généralement pas appelé papa. Et le papa céleste est clairement un autre que le papa que nous voyons à la maison quand il y est. Alors pourquoi j'ai pris ce temps pour parler de toutes ces choses ici, pour différencier le papa biologique, qui est généralement papa légal, le papa éducatif, le papa spirituel et le papa céleste? C'est parce que Jésus n'est pas dans une situation habituelle. Il est même dans une situation unique. Et je vais vous le démontrer. Donc, quel type de papa avait Jésus, en fait ? C'est la question. Jésus, en fait, n'a pas vraiment de papa biologique. Marie est devenue enceinte sans l'action humaine. Elle est devenue enceinte par un acte de création. Alors, écoutez, les enfants, ça va être un tout petit peu compliqué maintenant, mais je vais vous faire un résumé dans quelques instants. Dieu a-t-il utilisé l'ovule de Marie ? C'est une question qui peut venir. Alors, je le pense, pour que Jésus soit lié à l'humanité. Du côté XY, si on parle chromosomiquement, Dieu a sûrement créé la cellule de Jésus homme à partir de l'ovule de la femme, comme il l'a fait à partir de la poussière lorsqu'il a créé Adam. Et pas en mettant un super sperme de donneur, désolé pour les défenseurs de la PMA avec donneur. Nous sommes dans un acte créateur unique dans toute l'humanité, avec une femme vierge qui va développer un enfant dans son sein sans jamais avoir perdu sa virginité avant l'accouchement. En fait, c'est notre société hypersexualisée qui doit avoir un acte sexuel entre le Saint-Esprit et Marie. Il faut bannir cette idée, ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est notre société. Ou notre société scientifisée, si j'ose ce terme, qui doit voir un sperme de donneur de vie. Car cette société ne croit pas au miracle ou à un acte créateur de Dieu.
Bon, comme promis, les enfants, je vous résume tout ça maintenant. Vous êtes prêts?
Jésus, en fait, n'a pas de papa biologique.
Voilà, ça, c'est le résumé. Il n'a pas de papa biologique. Il a été créé comme Adam, qui n'avait pas de papa biologique et qui fut créé.
Donc Jésus n'a pas de papa biologique, il a été créé comme Adam, qui n'avait pas de papa biologique et fut créé. Par contre, Jésus est né dans un foyer avec un homme et une femme. Et un homme a pris soin de lui. Il était éduqué, protégé, encouragé, guidé. Jésus avait un papa éducatif, qui était aussi son papa légal. Et son nom est
Joseph. Ben voilà, il est là, Joseph, mais oui.
Donc, il avait un papa éducatif qui était son papa légal et son nom est Joseph, fils de Jacob, fils de David, fils d'Abraham, enfin, voilà, et fils d'Adam. Nous allons en parler dans le prochain point, dans quelques instants.
On a parlé du papa biologique, du papa éducatif.
Et Jésus, en fait, n'avait pas de papa spirituel. Jésus n'avait pas de papa spirituel car il n'a pas été accompagné pour se convertir à la foi en Dieu. Si j'ose parler ainsi par raccourci, Jésus n'a jamais été non-chrétien. Il n'a jamais eu besoin de vivre une transformation opérée par le Saint-Esprit que tout pécheur a besoin. Il n'a jamais eu besoin d'être réconcilié avec Dieu. Il est né sans péché. Il a vécu sans péché. Il n'a jamais eu besoin de réconciliation avec Dieu parce qu'il a toujours parfaitement fait sa volonté. Bien sûr, il y a le mystère de la croix où il a été chargé de nos péchés, où là, il a été séparé de Dieu. C'est le seul endroit qu'on voit ça. Mais il n'a jamais été séparé de Dieu, sinon.
Ah, les enfants, c'est nouveau, nu un peu difficile. Alors, je résume de nouveau.
Jésus, en fait, n'a pas de papa spirituel parce qu'il n'a jamais eu besoin de se réconcilier avec Dieu. Jésus n'a pas de papa spirituel parce qu'il n'a jamais eu besoin de se réconcilier avec Dieu. Et nous arrivons au quatrième type de papa. Vous vous souvenez duquel il s'agit? Papa biologique, Jésus n'en a pas. Papa éducatif, ah ben c'est Joseph. Papa spirituel, Jésus n'en a pas. Papa céleste ou divin. Hein? Et là, c'est important de bien comprendre quelque chose qui est difficile à comprendre. Vous êtes prêts?
Bon, Loïc m'a déjà ouvert le chemin ce matin.
Jésus a deux natures. Une nature divine et une nature humaine. Et pour leur dire simplement, les enfants, il faut juste vous retenir que Jésus est Dieu et homme. Voilà, il est Dieu et homme. Cela signifie que Jésus-Dieu n'est jamais né. Ça, c'est un élément très important à comprendre. Jésus-Dieu n'est jamais né. Il a toujours existé. Il a toujours été le Fils de Dieu. Il a toujours existé. Il a toujours été le Fils de Dieu. Et pour le dire avec des mots d'adulte, il n'a pas eu d'engendrement qui donne l'existence, mais un engendrement éternel qui donne un statut.
Parce que parfois on nous dit, bah, Dieu a un fils, donc bah, il a déjà eu des relations pour avoir un fils, enfin, etc. Je dirais,
non, Jésus, Dieu, n'est jamais né et il n'a jamais été engendré pour venir à l'existence. Il a toujours existé. Okay. Il y a ce qu'on appelle un engendrement éternel, qui lui donne ce statut de fils. Il y a le Père et le Fils. Donc, Jésus-Dieu qui devient homme ne perd pas ce statut de fils en devenant homme, en fait. Lui n'est pas un fils par adoption, mais le Fils éternel de Dieu qui se manifeste dans un corps humain tout en restant Dieu. Votre cerveau commence à chauffer ? C'est normal. C'est normal. C'est ce qu'on appelle le mystère de la double nature de Jésus-Christ, Dieu et homme, sans mélange ni séparation. Donc, si on résume ceci, Jésus a donc un papa céleste. Jésus a un papa céleste dont il est le fils depuis toujours. Jésus a donc un papa céleste dont il est le fils depuis toujours, avant même qu'il naisse en tant qu'homme à Bethléem. Donc avant qu'il naisse à Bethléem, il était déjà le fils de Dieu.
Dieu n'est pas devenu le Père de Jésus quand il a été conçu. Il l'était déjà avant, parce que Jésus existait déjà avant. Jésus n'a pas été adopté comme nous le sommes. Et d'ailleurs, si vous avez déjà un petit peu lu votre Bible, vous verrez que nous sommes adoptés en lui. Je vous lis juste le texte dans Galates pour que vous vous souveniez de cela. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». C'est par l'Esprit de son Fils que l'on peut dire « Abba Père », qui veut dire « Papa ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Bon, je vous ai dit que le premier point prendrait un peu de temps. C'est vrai. Parce que je voulais vous présenter, en fait, le papa de Jésus. Alors maintenant que nous avons vu tout cela, que répondriez-vous à la question « Qui est le papa de Jésus ?» Très bien, moi je vois dans vos pensées là. Très bien. Donc Joseph est le papa éducatif et légal de Jésus, homme, et Dieu est son Père céleste, de qui il est le Fils éternel et unique. Ah, vous avez même ajouté « et unique », c'est très bien, c'est vrai. C'est une bonne réponse, bravo. Il était unique parce que c'est le seul qui n'a pas été adopté. Et mieux connaître Jésus nous permet de le respecter plus encore. Il a un papa céleste de qui il est le fils depuis toujours. Et cela me dit aussi que tout ce qu'il va dire sur ce papa céleste lorsqu'il est sur la terre est sérieux. Il le connaît. Il le connaît parfaitement puisqu'il était avec lui depuis tout le temps. Donc faisons-lui totalement confiance lorsqu'il parle de son Père qui est dans les cieux. Comme nous sommes à Noël et que nous voyons souvent Joseph dans la crèche, on aimerait aussi un peu connaître quelques éléments de ce papa éducatif quand même. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, ce papa éducatif et légal. Passons donc à ce deuxième point pour parler du rôle et du caractère de Joseph. Joseph a un rôle important et particulier. Savez-vous lequel ? C'est de relier Jésus à David de manière légale. Ça, c'est son job. Et c'est très important. C'est la généalogie de Matthieu 1 qui nous permet de comprendre cela. À l'époque de Jésus, lorsqu'un homme reconnaissait un enfant comme son fils, il entrait dans sa lignée. Et Jésus devait être un descendant de David du point de vue légal pour prétendre au trône et accomplir la promesse que Dieu avait donnée à David, qui lui avait dit 1000 ans auparavant qu'il aurait un descendant pour toujours comme roi. L'ange qui parle à Joseph, on a lu dans Matthieu 1 tout à l'heure, quand il s'adresse à Joseph, il lui dit « Joseph, fils de David ». Ce n'est pas pour rien qu'il lui dit ça. Joseph, fils de David. Le rôle principal de Joseph est donc de donner à Jésus le titre de descendant légal de David. Mais Joseph ne s'est pas contenté de donner son nom. Il a pris soin de Jésus. Il a pris soin de Jésus dès avant sa naissance, en prenant soin de Marie. Joseph, en fait, est un homme de foi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand l'ange lui a donné la nouvelle invraisemblable que Marie, sa fiancée, était enceinte du Saint-Esprit, franchement, si vous êtes fiancé et que la jeune fille devient enceinte et qu'on vous dit qu'elle est enceinte d'une manière qui ne s'est jamais produite, et d'ailleurs qui ne se produira jamais plus, c'est quand même pas tout à fait facile à avaler. Mais Joseph nous montre ici une foi et une confiance absolue en Dieu qui a envoyé son ange. Et Joseph ne le fait pas qu'une fois. Donc, lorsque les mages qui étaient venus visiter l'enfant de loin sont partis, un ange du Seigneur parle à nouveau à Joseph, qui, en fait, croit ce qu'on lui dit, et non seulement il le croit, mais il agit. Il part tout de suite, il est soumis à ce qui lui est demandé, il est soumis aux ordres de Dieu. Et en fait, Joseph nous montre ici un trait caractéristique essentiel de tous les pères à qui les enfants doivent être soumis. Demander à un enfant d'obéir sans soi-même obéir à Dieu ne correspond pas à l'enseignement biblique. Donc pour résumer cet élément ici, la foi et la soumission à Dieu, si importante au rôle de père, était vécue par Joseph. La foi et la soumission à Dieu. Et on voit un Joseph qui obéit. Hein. Donc, quand il lui dit qu'elle était enceinte, il n'a pas dit « Bon, je vais encore voir ce qui se passe. Quand elle a fini ses nausées, peut-être je la prendrai chez moi. » Non, 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 non. Tout de suite, il l'a pris chez lui. Joseph est un homme de bien, qui aime, et il respecte celle que Dieu a placée à ses côtés. En fait, avant de connaître cette raison spéciale de la grossesse de Marie, il voulait même la protéger en rompant de manière à ce que ça ne soit pas connu. Parce qu'à l'époque, si c'était connu, c'est la lapidation. Hein. Non, lui, il aimait Marie, il voulait son bien. Ensuite, il la prend tout de suite chez lui pour la mettre en sécurité pendant sa grossesse. Et pendant tout ce temps, alors qu'il était son mari, devenu son mari, il ne s'est pas uni à elle jusqu'à la naissance de Jésus. En fait, Joseph est prévenant. Joseph est patient et il est responsable envers sa femme. Il est prévenant, patient, responsable envers sa femme. C'est si important pour le rôle du père, en fait. Parce que quand le père aime la mère, les enfants sont en sécurité. Quand le père aime la mère, les enfants sont en sécurité. Or, continuons encore pour le découvrir encore. Lors du récit du voyage de Jésus à Jérusalem à 12 ans, il est dit que ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. C'était une habitude, en fait. Il ne s'est pas dit à 12 ans, « Ah, il faut que j'y aille pour y faire plaisir, là, 12 ans, bar mitzvah, on y va. » Non, c'était quelque chose d'habituel. Il vivait sa foi de manière habituelle. En plus du respect de la circoncision, de la purification après la naissance, on a des indices qui nous montrent que Joseph était un homme qui pratiquait les commandements de Dieu, qui vivait dans la communauté de foi dans laquelle Dieu l'avait placé. En fait, le respect de ce que Dieu demande et une priorité mise à la communauté de foi sont des traits importants dans le rôle de père. Donc le respect de ce que Dieu demande et une priorité mise à la communauté de foi sont des traits de caractère importants dans le rôle du Père. Le fait que Jésus, d'ailleurs, est appelé, pour un aspect suivant, fils du charpentier, ou même dans Marc 6,3, charpentier, le charpentier, nous indique que Joseph a transmis son savoir-faire à son fils. Il l'a transmis. Et l'attitude de transmission de compétences est un trait de caractère important pour un père. La transmission de compétences. Alors, on peut encore parler d'autre chose. Hein. Vous pensez à d'autres choses, Joseph? Par exemple, son respect de la loi civile, alors qu'il est allé se faire recenser. Il y avait un recensement, mais il est allé, il a fait tout le voyage, etc. J'ai même vu la confiance en Jésus quand il avait 12 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pendant un jour de marche entier, il ne se pose pas de questions. Hein. Ils ont confiance. Il est avec ses copains, on va bien le retrouver, il vit sa vie, il est responsable. Il a une confiance. Bon, après un jour, il ne le voyait plus, donc là, c'est un peu plus tendu. Ils l'ont cherché, enfin, on a lu l'histoire. On voit aussi sa prévenance, sa patience et son amour envers sa femme. Ah non, ça, je l'ai dit avant. Encore sa précaution lorsqu'il revient d'Égypte. Lorsqu'il revient d'Égypte et il apprend que le fils d'Hérode règne, il est un peu en souci. Il se dit, mais est-ce qu'il est vraiment en sécurité? Et là, en fait, il est de nouveau guidé par un songe et il obéit. Il part en Galilée, à Nazareth, pour accomplir une prophétie. Alors, Joseph, lui, il n'avait pas les prophéties, un petit check-check. Non, non, ça c'est... Lui, il suivait ce qu'on lui disait et Dieu accomplissait. C'est Dieu qui a le petit check, hein, qui accomplissait toutes les prophéties.
Voilà, on pourrait parler de tout ça de manière détaillée, mais si nous retenons déjà ces quelques éléments, donc j'en cite cinq. Premièrement, l'acceptation de son rôle légal. Deuxièmement, sa foi et sa soumission à Dieu. Troisièmement, sa prévenance, sa patience et son amour envers sa femme. Quatrièmement, son respect des lois de Dieu et son amour de la communauté de foi. Et cinquièmement, son attitude de transmission. Nous avons déjà là un beau portrait d'un homme à qui Dieu a fait la grâce d'être le père éducatif de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus, quelle était l'attitude face à son père ? C'est notre troisième point. L'attitude de Jésus face à son père. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué en lisant votre Bible, mais nous n'avons aucun texte où Jésus s'adresse uniquement à Joseph. On n'a pas de dialogue entre Jésus et Joseph. Vous pouvez lire toute votre... Enfin, si vous trouvez, vous me dites, hein, ça m'intéresse, moi, mais je n'ai pas trouvé. Nous avons une seule parole qu'il dit à Joseph et Marie. Hein, donc là, on voit qu'il parle, que Joseph faisait partie. Hein, donc il donne dans Luc 2, hein, quand Joseph et Marie le retrouvent à Jérusalem dans le temple après l'avoir cherché. Je vous le relis, comme ça on l'a bien en tête. Hein. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous fais-tu cela ? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Mais il leur dit, « Mais pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. En fait, la seule parole que l'on a, qui est inspirée, qui est vraie, de Jésus à Joseph, c'est une parole quand même assez particulière. Il dit qu'il s'occupe des affaires de son père. Puis Joseph, il dit, mais... De laquelle de mes affaires s'occupe-t-il ? Hein ? Je veux dire, il devait se dire, mais je ne comprends pas. Et d'ailleurs, c'est dit dans le texte, il ne comprenait pas. Hein. Je ne comprends pas. Je veux dire, enfin, peut-être qu'il disait, est-ce qu'ils ont demandé une charpente pour le temple ? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il ne comprenait pas. Et voilà 12 ans qu'il prenait soin de Jésus comme son fils. Et le voisinage, plus tard, l'appellerait le fils du charpentier qu'il était. Depuis 12 ans, il prend soin de lui. Et lorsque Joseph a compris qu'il ne parlait pas de lui dans le temple, parce que je pense qu'il l'a compris par la suite, il a pu avoir deux réactions. Là, on n'a pas d'information. Aucune. Mais il a par deux réactions. Soit se souvenir des anges qui étaient apparus et se réjouir que Jésus marche dans la bonne direction. Parce que les anges lui ont parlé quand même. Il a quand même des indications. Et si Joseph s'est souvenu de cela, eh bien, il a pu se réjouir que Jésus marchait dans la bonne direction, sans être vexé, hein, puis se dire, ouais, mais je mériterais quand même un tout petit peu plus de crédit quand même. Moi, ça fait 12 ans que je m'en occupe. Hein. Les langes et tout, hein. Enfin, pas 12 ans, mais avant, quoi. Ou bien, a-t-il plutôt eu cette réaction, justement, ben, mais quand même, quoi. Je ne suis pas très content. Peut-être je vais même le corriger quand même, lui se rendre compte qu'on ne fait pas ça. Comment est-ce qu'il a réagi ? On ne sait pas vraiment. Moi, je pense qu'il a plutôt eu la première réaction. Je pense qu'il y a eu cette pensée de penser à ce qui s'est passé avec les anges. Mais je pense aussi que Joseph a eu parfois des situations plus difficiles. C'était un homme pécheur comme vous et moi. Donc parfois, ça n'a pas dû être facile aussi pour lui. Parce qu'il devait rester humble, le serviteur du Seigneur. Et en fait, donner toute la gloire à quelqu'un d'autre. Qui était le Père céleste de Jésus. Mais bon, on est aussi un peu appelé à vivre un peu comme ça quand même, quelquefois. C'est de vivre, de donner tout ce qu'on a, mais tout ce qu'on a, on l'a reçu aussi. Et on veut rendre gloire à celui qui nous l'a donné. Alors si nous n'avons pas de parole adressée uniquement à Joseph, concernant l'attitude de Jésus, nous n'avons qu'un élément directement à lui, qui d'ailleurs caractérise la perfection de l'enfant face à ses parents. Il y a quelque chose qui est dit ici dans le texte, dans Luc, il a dit que Jésus leur était soumis. Et l'attitude de Jésus face à Joseph, son père éducatif, son père légal, c'est qu'il lui était soumis. Pour le reste, nous avons des caractéristiques générales. Il croissait en sagesse, en stature, en grâce, hein, et ainsi que la connaissance que Jésus n'a jamais péché, ben nous pousse à nous dire que voilà, la relation avec Joseph, ben elle était particulière.
Ça a dû avoir un impact dans cette relation entre Jésus et Joseph. Mais on n'a pas d'exemple concret de cette relation. Et si quelqu'un vous raconte une fois des exemples de comment ça s'est passé entre Joseph et Jésus, eh bien ce sont des textes qui sont en dehors de la Bible, qui sont faillibles. Y a-t-il un élément d'historicité ? Alors quand c'est farfelu, je ne pense pas, non ? Voilà ce que Dieu nous a donné, c'est ce qui est dans cette parole. Il ne nous est pas parlé de son attitude et sa relation avec son père éducatif et légal. Son attitude, par contre, vis-à-vis de son père céleste est beaucoup plus explicite et détaillée. Et si je commence maintenant à vous parler de tous les liens entre Jésus et son père céleste, non seulement je refais une nouvelle prédication, mais j'en fais en tout cas trois. Parce que c'est tout l'évangile. Moi, je vous encourage, quand vous lisez les évangiles, à être un peu attentif à ce lien entre Jésus et son père céleste. Comment ça se passe entre les deux ? Je vais quand même vous donner quelques exemples, qu'on ait un peu quelques éléments qui nous restent. Hein. Le premier, c'est que Jésus fait la volonté de son Père qui l'a envoyé. Il fait la volonté de son Père qui l'a envoyé. Il dit même que c'est sa nourriture, hein, dans Jean 4. La soumission du Fils envers son Père. Il fait la volonté de son Père. Deuxième élément, Jésus parle de son unité avec son Père. Il parle de cette unité, il dit même le Père et moi sommes un, enfin des fois des textes un peu étonnants hein, qu'on peut lire, mais qui parle de cette unité avec ce Père. Ce qui se traduit en fait par la connaissance de sa volonté. Donc s'il est uni, eh bien il connaît sa volonté. Non seulement il connaît sa volonté, mais il a plaisir d'être avec lui. Quand on est tout le temps avec quelqu'un, quelque part, on a l'impression, des fois, quand il y a des personnes, des copains ou des copines, tout ensemble, on dit c'est des jumeaux ou des jumelles. C'est comme s'ils étaient tout le temps ensemble. Eh bien, Jésus, avec son Père, était tellement proche, en fait, que ça allait plus loin que dire c'était des jumeaux, c'était quasiment qu'une seule personne. Bon, vous allez me dire, dans le mystère de la Trinité, c'est le cas. Mais Jésus, homme, vivait cela. Il avait un amour mutuel. Et troisième élément que j'aimerais souligner, c'est que Jésus a un respect pour son Père. Ça, c'est assez étonnant quand même. Jésus est Dieu, vous êtes d'accord ? Si vous ne l'êtes pas, je vous le dis. Jésus est Dieu. Et il a un respect pour son Père qu'il considère comme plus grand que lui. Comment c'est possible d'être plus grand que Dieu, là ? En fait, c'est dans cette relation filiale hein, entre le Père et le Fils. Jésus, et ça c'est dans Jean 14, 28, vous pouvez aller vérifier, hein, Jésus a un respect pour son Père qu'il les considère comme plus grand que lui. Vous savez, Paul, plus loin dans Philippiens, il va dire que nous, on doit considérer les autres comme étant supérieurs à nous. C'est une attitude de vie, en fait, que Jésus vivait avec son Père céleste. Alors, dans ce dernier point, nous avons parlé de l'attitude de Jésus face à son Père. Alors, maintenant, on sait qu'il y a son père légal et son père éducatif et son père céleste. Nous voyons une constante, son père éducatif et son père céleste. Il y a une chose qui fait pour les deux, très clairement, c'est qu'il leur est soumis. La relation de Jésus avec son père est parfaite. Elle est parfaite. Et c'est cette perfection que Dieu voit lorsqu'il voit ses enfants adoptés. C'est extraordinaire. On est adopté en Christ. Donc Dieu nous voit et voit notre relation d'enfant avec lui au travers de Christ. On n'a pas la pression de devoir être parfait pour pouvoir être accepté par Dieu notre Père. Sinon, moi, je ne pourrais jamais l'appeler Père. Je ne suis pas parfait. Mais Christ l'est et par lui, nous vivons cette perfection de relation avec Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas cette pression que l'on va simplement se laisser aller et puis dire c'est égal, Jésus de toute façon était parfait. Ben non, parce que justement il va nous pousser à vivre d'une manière qui ressemble toujours plus à comment Christ a vécu avec son père éducatif, ça c'est des éléments qu'on arrive un peu à saisir, assez proches, et son père céleste, cette proximité qu'on a aussi par l'Esprit de Dieu. Alors pour les parents et pour les enfants, réfléchissons à la manière dont Jésus a vécu avec son papa et comment son papa a vécu avec lui, selon ce qu'on a pu voir ce matin. Et réjouissons-nous qu'il est venu aussi pour rétablir et encourager les relations entre les pères et leurs enfants, ou les parents et leurs enfants, et les enfants et leurs parents. C'est aussi ça le message de Noël. Et si vous vous posez la question « Qui est le papa de Jésus ?», il n'est pas comme les autres. Et pourtant, il s'est fait proche de nous. Et par lui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous allons prier. Père, nous venons vers toi en osant t'appeler, Père. Quelle grâce. Une grâce immense. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas des fils de toute éternité ou des filles de toute éternité. Seul Jésus est fils de toute éternité. Mais par lui, nous entrons dans cette famille. Nous avons un papa biologique, éducatif, spirituel, et un papa céleste, par Christ. Quelle grâce! Et nous voulons, Seigneur, te prier de nous donner cette joie de nous réjouir de ces relations que tu nous donnes, ces relations sur cette terre, entre les personnes que tu as mises autour de nous, à côté de nous. J'aimerais, Seigneur, te prier pour ceux qui n'ont pas, ou n'ont plus, ou n'ont pas eu certaines relations avec un papa biologique, ou peut-être pas eu de papa éducatif, ou peut-être pas eu de papa spirituel et être encore dans la nuit. Seigneur, j'aimerais te prier que tu puisses aussi là combler ces manques, et tu le fais par ta grâce. Nous voulons te dire merci parce que Noël nous rappelle que tu es ce Dieu qui a envoyé ton Fils pour que nous puissions être sauvés. Une situation tout à fait particulière, une création particulière, pour que nous puissions devenir des nouvelles créations pour ta gloire. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.